Béni soit le Seigneur. Moi aussi, j'avais prévu, dans la fin de mes notes, de faire chanter ce cantique. Vous voyez ? C'est bien, Michael. Oui, parce qu'il y a un fleuve dans lequel les chrétiens peuvent véritablement se plonger. Un fleuve de grâce, un fleuve de miséricorde. Vous vous rappelez, Agar, quand elle a été chassée par Abraham ? Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le désert ? Vous vous rappelez ce qui s'est passé ? Il y avait un puits à côté d'elle, elle ne l'a pas vu. Il a fallu que son fils intercède pour que le Saint-Esprit agisse. Que de chrétiens sont exactement dans le même cas de figure. Il y a un fleuve, ils le chantent, mais ils ne le croient pas. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez que Dieu s'intéresse à notre bonheur. Alors j'aimerais quand même lire à l'introduction ce texte que l'on connaît par cœur. Enfin, qu'on le connaît par cœur. Que l'on connaît. Est-ce que nous le vivons vraiment, nous le réalisons ? Dans Matthieu au chapitre 11, au verset 25, il y a une prière et un enseignement. C'est quelque chose de terrible de voir que Dieu n'arrête pas de proposer dans sa parole de nous bénir, de nous restaurer, de nous gracier, etc. Il y a toujours des invitations. Moi, plus je lis la Bible et plus je me rends compte que même quand les paroles sont d'une sévérité totale, il y a toujours, après, toujours une parole pour revenir au Seigneur. Toujours. Matthieu chapitre 11, verset 25. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et vous pouvez tous dire Amen. Mais vraiment, vous pouvez le dire. Est-ce que vous réalisez que Dieu, depuis 2000 ans, ne cesse de répéter ses invitations à tous les chrétiens sur toute la surface de la terre. Venez à moi et je vous bénirai. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Le problème, il est là. La bénédiction, tout le monde la veut, mais est-ce que véritablement on veut recevoir les instructions ? Qu'avez-vous reçu en 2017-16 ? Qu'avez-vous reçu ? Que recevrez-vous en 2017 ? Que prendrez-vous ? Prenez mon joug. Que recevrez-vous de la part du Seigneur ? Que prendrez-vous ? C'est Paul qui dit aux Corinthiens, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu s'intéresse vraiment à notre bonheur. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux que Dieu s'intéresse à notre bonheur ? Dieu aurait pu ne s'intéresser qu'à notre salut. C'est-à-dire que, est-ce que c'était déjà bien que Dieu s'occupe que de notre salut ? Ben oui, c'était bien, ça suffisait. Et pourtant, vous ne pouvez pas nier cette affaire. Dieu s'intéresse à notre bonheur. Vous êtes heureux, dira-t-il lorsqu'il a lavé les pieds aux apôtres. Vous rappelez cette histoire extraordinaire. Il nous a dit qu'avant de mourir, avant d'être amené au calvaire, il a mis le comble à son amour. Le comble. Il ne pouvait pas faire plus grand. Ben, après la croix, bien sûr. Il ne pouvait pas faire plus grand. Il leur a lavé les pieds et il leur a dit à la fin, « Vous êtes heureux. » Si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Voilà le grand problème. Je sais ces choses. Ce matin, je lisais l'Apocalypse, car on va quand même lire ce verset d'introduction dans l'Apocalypse, livre que les chrétiens qui ne sont pas prêts et qui ne seront pas enlevés vont dévorer. Puis quand l'Église sera enlevée, croyez-moi que c'est un livre que les gens vont lire. Comme jamais il n'a été lu, ce livre. Croyez-moi, après l'enlèvement de l'Église. Dans ce livre, on voit de suite, c'est le seul livre de la Bible qui commence avec cette bénédiction, Apocalypse 1, verset 3. Quand même, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. « Heureux celui qui lit. » C'est pas tout quand même. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Parce que vous savez, c'est une chose de lire avec les yeux, et c'en est une autre de lire avec les yeux du cœur. C'est pour ça que là, c'est bien défini, celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites. Donc il y a un vrai bonheur. Dieu s'intéresse à notre bonheur. Dans l'Apocalypse, 7 fois, il y a le mot bonheur. 13 fois, il y a le mot malheur. Et on voit bien que l'homme choisit ou d'être heureux ou le malheur. Tout à l'heure, on a lu le psaume 106 qui commence par une exhortation à louer Dieu. Il dit « Heureux ceux qui observent ta loi ». Et on voit à la fin du psaume, ils furent malheureux. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils se sont relâchés, ils ont commencé à oublier de rendre grâce. « Oh, mais tu ne vas pas nous faire un flan parce qu'on a oublié de rendre grâce ». Eh bien ça commence comme ça. On oublie de remercier Dieu. On oublie de compter ses bienfaits. Et vous lirez le psaume 106, je ne vais pas revenir sur l'introduction de tout à l'heure. Mais Dieu dit, voilà, heureux les hommes qui font ceci. Ils devinrent malheureux, comme les nations. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Et le Seigneur le dit, mais venez, venez, venez à moi et vous serez heureux. Venez à moi et votre joug sera doux. Vous croyez que parce que les ténèbres s'épaississent, parce que tout va de plus en plus mal, parce que les prophéties s'accomplissent, vous croyez que Dieu n'est pas dans la souveraineté de rendre un de ses enfants heureux ? Sérieusement ? Vous croyez qu'il y a quelque chose qui empêche Jésus de bénir un homme ? Mes frères et sœurs, même si le malheur vient, même si la colère de Dieu vient, moi je vous dis que le Seigneur, il s'intéresse au bonheur de ses enfants. Vous pouvez dire « Alléluia ». Parce qu'il a tout pouvoir pour vous rendre heureux. Et la Bible montre bien, c'est en boucle, c'est une question qui s'est toujours posée. Regardez dans le psaume 4, c'est une question que les hommes se sont toujours posées. David se fait le porte-parole de ses collègues sûrement. Il avait des amis, David. Hein, vous le savez ? Oui, il avait des copains. Psaume 4, verset 7, il se pose la question. Il se pose la question. C'est une question que tous les hommes, en toutes les générations, partout se sont posées. Psaume 4, verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? C'est une question. David se l'est posée. Il devait en discuter avec des copains. Et un jour, il se dit, oui, mais qui nous fera voir le bonheur ? Qui nous fera voir le bonheur ? Eh bien, Dieu peut nous faire voir le bonheur. Regardez le psaume 1er. Le psaume 1er commence avec ce mot, d'ailleurs. Le psaume, alors, il indique ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. On le lit, le psaume 1er ? C'est un psaume que vous pouvez apprendre par cœur. Alors, psaume 1er, lisons-le. Il y a les instructions qui nous permettront de faire que notre joug sera doux et notre fardeau léger. Psaume 1er, verset 1er. Heureux l'homme. Alors, premièrement, ce qu'il ne faut pas faire. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ce qu'il faut faire maintenant. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez, d'un côté le bonheur, commence à être heureux, et à la fin, un mot, le psaume termine par un mot qui est complètement opposé, par la ruine. Ça ne vous fait pas penser à notre texte de la Bible ? Qui commence pareil, qui commence par le mot heureux et qui finit par le mot ruine. Le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le sermon sur la montagne commence et finit de la même manière. Vous l'aviez remarqué ? Non. Eh bien, je vous le fais remarquer, mais on va y aller quand même. Hein. Parce que je sais que vous me croyez, mais quand même, ça ne fait rien. Regardez, et on voit bien, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le même principe. Hein. Voyez le sermon sur la montagne, chapitre 5, verset 3, commence de la même manière, heureux. Voyez, on voit que Dieu s'intéresse à votre bonheur. Ça vous touche pas quand même que Dieu s'intéresse à votre bonheur ? Eh ouais, c'est quand même merveilleux. Voyez, heureux les pauvres en esprit. Voyez, c'est le début. Et regardez la fin du sermon, chapitre 7. Chapitre 7, regardez la maison qui est fondue sur le sable, comment elle finit ? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée car sa ruine a été grande. Donc voyez toute cette inspiration, c'est extraordinaire. Vous voyez bien que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le principe est le même. Il y a un bonheur qui est proposé par Dieu et les gens qui n'en veulent pas sont ruinés. Ruinés pas forcément matériellement, mais ruinés spirituellement. Et c'est à nous de nous dire, mais tiens donc, c'est vrai, ce bonheur, comment obtenir ce bonheur en 2017? Vous n'avez pas envie d'être heureux, mais pas pour vous, même pas pour vous. Mais vous n'avez pas envie d'être une source de bénédiction pour les autres, plutôt qu'une source de découragement, une source de défaite. Il y a des gens qui sont pénibles, vous en rencontrez pas des gens qui sont toujours défaitistes? Vous ne connaissez pas des gens qui sont plein chemin, qui fatiguent? Moi, quand je suis arrivé ici, je me souviens, il y a une sœur, vous la connaissez, elle sera là certainement dimanche. Elle, je voyais qu'elle voulait me protéger. Elle est tout le temps attentionnée, vous savez. Je la chambre souvent quand elle est là. Et des fois, elle me disait, Monsieur Gou, vous n'êtes pas fatigué? Parce qu'elle voyait bien quand même mon travail. Ça. Monsieur Gou, quand on est fatigué, un pasteur qui est fatigué, il fatigue l'Église. Alors, faites en sorte de ne jamais être fatigué. Et cette femme, régulièrement, elle m'a tout le temps donné des bons conseils. Et c'est vrai que quand on fatigue les autres, ce n'est pas intéressant. C'est pas vrai? C'est vrai. Et nous avons un Dieu qui nous montre comment être... Alors, on pourrait prendre la soirée. On va le faire, le peu de temps qui nous est attribué. On va l'utiliser pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Quels sont les comportements qui font qu'un homme peut être heureux? Quand même, mes frères et sœurs, vous avez vu l'époque dans laquelle on est. Vous savez ce qui va bientôt arriver, ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Le malheur va frapper cette terre. Mais tant que le Seigneur est là, tant que le Saint-Esprit est là, tant que l'Église est là, mes frères et sœurs, nous ne pouvons qu'être une source de bénédiction. Oui, les gens qui sont heureux, ce sont les gens qui disent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Recevez mes instructions. Apprenez de moi. Apprenez de moi, dit la version Darby, je crois. Apprenez de moi. L'apôtre Paul a beaucoup appris. Il le dit souvent dans ses épîtres, j'ai appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans la disette. Il a appris à aimer. Lui qui était rempli de meurtre, il a appris à aimer. C'est extraordinaire tout ce que l'on peut apprendre. Mes frères et sœurs, je ne sais pas combien d'années de conversion vous avez. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec le Seigneur. Mais est-ce que vous n'avez pas envie d'apprendre à être heureux? Est-ce qu'il y a des versets qui vous viennent à l'esprit? Vous avez vu dans les psaumes, on a pris le psaume 2 dimanche. Pour expliquer que Dieu avait décidé que Jésus serait toujours le roi et que ça valait la peine d'être avec lui. Vous avez vu comment il finit ce psaume? Est-ce que vous étiez là dimanche? Vous étiez là dimanche. Par quoi il terminait le psaume? Vous vous rappelez le psaume 2? Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mais je viens à l'église, monsieur, je prie. Non, je ne vous demande pas si vous venez à l'église à toutes les réunions et si vous priez et si vous connaissez beaucoup de textes par cœur. Je vous pose la question, est-ce que vous vous confiez en lui? Est-ce que vous vivez vraiment le chant que Michael a essayé de nous faire chanter tout à l'heure? Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Par la foi, je marcherai. Je ne peux pas douter du Seigneur. Le doute, si vous ne le réglez pas, il vous empoisonnera toute votre vie. Un chrétien, il peut faire confiance à Dieu. Si vous avez fait quelques progrès, je sais bien qu'on n'est pas tous au même niveau, mais quand même, si vous avez fait quelques expériences avec Dieu, si vous avez été touché par la grâce de Dieu, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme dit l'apôtre Jacques, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous ne pouvez pas ne pas faire confiance. Et la Bible est catégorique, je ne sais pas combien de fois, sous plusieurs formes différentes, il est dit « heureux l'homme qui se confie dans le Seigneur ». Il n'est jamais dit « heureux celui qui prie ». Il y a des gens qui prient, mais c'est des vrais religieux, ils ont l'enveloppe de la chrétienté, mais ils n'ont aucune profondeur. C'est comme ça. Dieu l'a décidé, si vous vous confiez en lui, vous serez heureux. C'est pour ça que le diable, il essaie de nous distraire pour que nous n'ayons pas cette communion qui développera cette véritable confiance. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Faites-lui confiance. Quand vous lisez la parole de Dieu, faites-lui confiance. Ne dites pas, mais je ne comprends pas, j'y comprends rien. J'ai lu le livre de Josué, Dieu a arrêté le soleil. Mais Josué a arrêté le soleil. Non mais n'importe quoi, ça ne tient pas debout. Ah oui? Vous croyez que celui qui a créé l'horloge, il sait pas il la maîtrise pas l'horloge?
Mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Ne commencez pas à dire « oui, je ne comprends pas ». L'autre jour, j'avais parlé que la Nouvelle Jérusalem. Bon, la Nouvelle Jérusalem, c'est la grande ville quand même. 2000 kilomètres, 2200 en vérité. Vous voyez, on abrège pour 200 kilomètres près, ce n'est pas grave. 2000 kilomètres de large, 2000 kilomètres de haut, tout en or. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais ça m'a fait sourire, quelqu'un qui est venu me voir, il me dit, mais monsieur, où c'est que Dieu il a trouvé tout cet or? Et j'ai dit, il doit savoir. Mes frères et sœurs, ça fait sourire. Vous ne croyez pas que Dieu règne sur tout? Mes frères et sœurs, si le Seigneur dit « heureux ceux qui se confient en lui », si vous vous confiez en lui en 2017, vous serez heureux. C'est comme ça. Si vous allez à l'église et que vous êtes tout le temps en train de douter, en train d'être incrédule, parce que le doute, ça se gère. Il faut bien faire la différence entre le doute et l'incrédulité. L'incrédulité, c'est un choix. C'est un choix de ne pas croire. Et il y a des chrétiens qui sont dans un état déplorable. Parce qu'en fin de compte, ce sont des incrédules. Quand Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Parce qu'en fin de compte, cette affaire-là était en train de l'amener à l'incrédulité. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et quand il a vu les marques dans les mains de Jésus, dans son côté, il a cru. Il a été bouleversé, il a reconnu que Jésus était Dieu. Et si vous comprenez ces choses, vous honorerez le Fils. On l'a vu dimanche, celui qui honore le Fils, il honore le Père. La véritable religion, c'est ça. Celui qui honore Dieu, il honore le Fils. Si vous n'honorez pas le Fils, votre religion, elle ne vous sert à rien parce qu'elle ne convient pas à Dieu. Heureux ceux qui se confient en lui. Alors on va prendre notre texte. Est-ce qu'il y a un autre texte qui nous parle de comment être heureux? Tiens, dans le psaume 23, est-ce qu'il n'y a pas un texte qui nous parle de notre dimension du bonheur? Psaume 23. Vous le connaissez le psaume 23? Par cœur? Il faut l'apprendre par cœur aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous enseigne le bonheur dans ce texte? Oui. Alors, c'est le verset 6. Psaume 23, verset 6. Là, on a parlé de la foi. La foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? C'est la confiance. J'ai confiance en Dieu. Je n'ai pas confiance dans mes prières, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance dans le nombre de chrétiens dans l'église, etc. J'ai confiance en Dieu. Deuxième pilier, psaume 23, verset 6. Oui, oui, qu'est-ce que c'est qui m'accompagnera? Le bonheur est là. Et la foi, c'est bien, vous savez. La foi, c'est bien. C'est merveilleux, la foi. La foi, c'est Dieu nous l'a donné, comme il nous a donné des bras, des yeux et des oreilles. Il nous a donné à chacun une mesure de foi. On l'a tous. Dieu ne nous demanderait pas de faire un acte de foi s'il ne nous l'avait pas donné. C'est ça, vous voyez, la confiance. Mais qu'est-ce que ça serait, la foi, sans la grâce? À quoi servirait cette foi, si belle pour les uns, peut-être encore plus pour les autres? Que servirait la foi s'il n'y avait pas la grâce de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Merci Seigneur pour la foi. Merci Seigneur pour la foi qui a permis, je ne sais pas moi, à David de viser juste pour atteindre le géant. Est-ce que c'était la foi? C'était la foi ou la grâce? Tiens donc. Tiens donc. C'est par la foi que David a tué Goliath? Ou c'est par la grâce? Gros dilemme pour les stagiaires. C'est quoi? Eh oui, après tout. C'est une vraie question, ce n'est pas une question bête. C'est une vraie question. Que servirait la foi de David s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu? Parce qu'on peut le tordre comme on veut. C'est sûr qu'il a eu la foi, il a obéi, son père lui a dit, écoute, va voir tes frères dans la vallée de Héla, là-bas, porte-leur du fromage, du pain, etc. Il a obéi. Il a obéi. Pourtant, avec ses frères, c'était pas le grand amour, croyez-moi. Il a obéi. Et quand il est arrivé, comme il était dans la volonté de Dieu, il a de suite su ce qu'il fallait qu'il fasse. Donc il a fait ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il a fait. Il a fait un acte de foi. Mais mes frères et sœurs, soyons intelligents. On sait très bien que la foi sans la grâce, ça ne servirait pas à grand-chose. Il y a la grâce de Dieu. Parce que on pourrait se cantonner à cette vertu de la foi. Mais mes frères et sœurs, n'oubliez pas qu'il y aura toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Cette année, vous pourrez compter sur la grâce de Dieu. Où il est assis en ce moment, le Seigneur Jésus? Sur le trône de la grâce.
Il est assis sur le trône de la grâce. On l'a lu mardi dernier. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur, il fait grâce. Ce soir, vous pouvez partir chez vous. Seigneur, tu es assis sur le trône de la grâce. Tu peux me faire grâce. Ça n'a pas été jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu dans le psaume 12 qu'on a vu dimanche, ces hommes qui rejettent Dieu, qui se débarrassent de Christ, qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Dieu leur dit, maintenant, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Non mais tu te dis, c'est pas possible, une grâce pareille. Les hommes rejettent le Seigneur, les hommes rejettent Dieu, les hommes se moquent de Dieu, les gens ricanent quand on leur parle de la croix. Et le Seigneur dit, conduisez-vous avec sagesse, roi de la terre. Même les rois qui sont plus impétueux les uns que les autres, le Seigneur leur dit, vous pouvez vous approcher de moi. Oui, la grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Vous voulez être heureux, vivez toujours de sa grâce. Toujours de sa grâce. Toujours et toujours de sa grâce. Vivez de sa grâce. C'est le seul moyen d'être heureux sur la terre. Oui, David l'affirme, c'est une certitude. Quand vous connaissez la grâce, vous pouvez dire oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. De 2017. Tout, oui, j'aurai mes épreuves, bien sûr que j'aurai mes moments pas faciles. Il y aura des jours mauvais, il y aura des jours d'angoisse peut-être. Mais mes frères et sœurs, dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, la grâce de Dieu m'accompagnera. Il l'a promis. Vous le croyez ça? Qu'il a promis que sa grâce vous accompagnerait? Vous le croyez que vous pourrez vous mettre à genoux dans votre chambre et dire, Seigneur, ta grâce sur mes enfants? Ta grâce sur mes petits-enfants. Ta grâce sur eux. Tu vois, Seigneur, certains ne t'aiment pas encore, mais je fais confiance à ta grâce. Oui, j'ai la foi. Je sais que tu as tout pouvoir, que tu peux toucher un homme, que tu peux l'arrêter, que tu peux le convaincre, que tu peux arrêter des soldats de Tarse sur leur chemin. Seigneur, mais ta grâce, s'il te plaît. Oui, si vous avez la foi, c'est bien. Mais la foi sans la grâce, croyez-moi, elle ne vous servira pas à grand-chose. Ça serait une forme d'orgueil que de développer une foi qui grandisse, sans vous attacher à la grâce de Dieu. Un autre, on est dans le psaume 23, un autre pilier du bonheur, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume 25, verset 12. Vous y êtes? Psaume 25, verset 12. C'est une question, il y en a des questions. Dieu les pose, les questions. Elles sont toutes intelligentes, toutes. Dieu nous instruit, comme dit l'Isaïe, pour notre bien. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Quel est l'homme, pardon, qui craint l'Éternel? Ah, la crainte. Vous savez, aimer Dieu, c'est une chose. L'aimer d'une manière sentimentale parfois, d'une manière spirituelle, c'est bien mieux. Mais quel est l'homme qui craint l'Éternel? Qui est l'homme qui respecte Dieu? Ça, c'est le troisième pilier du tabouret. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Est-ce que c'est important les choix dans la vie? Est-ce qu'il y a des choix à faire dans la vie? Eh oui, il y a des choix quand on est jeune, quand on fait des études. Est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire? Tiens, quelle est l'orientation que je vais prendre? Quelle est l'épouse que je vais prendre? Non, les jeunes, vous ne me suivez pas? Tant pis, c'est pas grave. Quelle est l'épouse que tu veux me donner? Quel est le mari que tu veux me donner? La maison encore, c'est quoi le plus important? Une belle maison, une belle situation. Est-ce que Dieu peut vous diriger dans le choix d'une maison? Vous êtes sûr? Bien sûr. Mais bien sûr, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Mais la crainte de l'Éternel, c'est ça. Je ne doute pas, Seigneur, tu vois, je suis jeune, je veux fonder un foyer. Est-ce que c'est bien de vouloir fonder un foyer? Nicolas, est-ce que tu as pu fonder un foyer? Tu as trouvé une épouse? Est-ce que le Seigneur t'a conduit? C'est vrai? Elle est bien ton épouse? Eh ouais, mais c'est pas important? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Frères et sœurs, c'est sérieux. Et regardez la suite, on n'a pas lu la suite. Quand même, c'est sérieux. Son âme reposera dans le bonheur. Il y a un bonheur, mes frères et sœurs. Et le bonheur, il est là, dans cette crainte. Vous avez vu le psaume premier qu'on a lu tout à l'heure? C'était en vérité, c'était toute ma méditation. J'aurais pas le temps d'y venir. Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, les méchants, vous croyez-moi, il y en a des méchants. Est-ce qu'il y en a des méchants autour de nous? Des méchants. Pas des pécheurs. Des méchants. Est-ce qu'il peut y avoir des méchants dans l'Église? Eh oui. Oui, il peut y en avoir, Valérie. Des méchants, il y en a. C'est quoi la différence? Parce que la Bible parle du juste, c'est le chrétien qui obéit. La Bible parle du pécheur, c'est l'homme qui n'a jamais rencontré Dieu et qui ne veut pas de Dieu. Et la Bible parle du méchant. Le méchant, c'est quelqu'un qui s'est détourné de Dieu. C'est pour ça que Isaïe dit que le méchant retourne à l'Éternel. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et vous devez savoir si les conseils que l'on vous donne sont des conseils intelligents, spirituels, ou des conseils de gens qui ne connaissent plus Dieu. Ou des gens qui se disent chrétiens, mais si, tu peux faire ça, t'inquiète pas, le Seigneur te bénira quand même. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, si les conseils viennent de Dieu, quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, son âme reposera dans le bonheur. Et quand je vois la quantité de chrétiens qui font n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner que leur vie soit ruinée. Car la voie des pécheurs et des méchants s'amène à la ruine. Ah, c'est bizarre, ça, il y a des gens qui sont heureux et il y a des gens qui sont ruinés. Eh bien oui, ça dépendra des choix que vous faites. Et le Seigneur, on le voit, cette question qui a été posée par David, qui était quand même un homme qui voulait connaître Dieu et qui l'a connu, qui nous fera voir le bonheur, elle est là. Pourquoi ? Parce que c'est la preuve que Dieu s'intéresse à votre bonheur. Et que si le diable essaie de vous faire croire qu'en 2017, eh bien ça va aller mal, ça va aller de plus en plus mal, ça va, vous allez être de plus en plus malheureux, ce n'est pas vrai. Même l'Apocalypse, je le répète, Dieu dit « heureux celui qui lit ». L'Apocalypse, ce n'est pas un livre pour nous faire peur, c'est un livre pour nous révéler la grandeur de Jésus-Christ, que les jugements de Dieu sont justes, que tout ce que Dieu fait est intelligent. Vous pouvez être rassurés. Quand vous verrez ces choses, rassurez-vous, votre délivrance est la prochaine. Ne soyez pas troublés. Oui, moi je suis bouleversé de voir que Dieu donne le bonheur. Alléluia. Vous savez, c'est important, mes frères et sœurs. Et je crois que nous avons besoin de témoigner autour de nous que nous avons la paix. Vous ne croyez pas que c'est un signe de bénédiction quand les gens autour de nous voient que nous avons la paix ? L'autre jour, j'étais à la boulangerie, elle me dit, vous êtes le premier client qui est toujours heureux. J'ai dit, oui, mademoiselle, parce que j'ai la paix. Ah bon, vous avez la paix, elle me dit. Oui, j'ai la paix parce que je crois en Dieu. Ah bon ? Et puis après, comme il y avait plein de monde, elle m'a dit, on en reparlera. Mais j'étais content de voir qu'elle voyait que j'étais en paix. Et je crois que si on ne peut pas convaincre les gens, car c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, je pense que l'on peut avoir la grâce de procurer la paix. Heureux, tiens donc, ceux qui procurent l'angoisse. Non, c'est pas écrit comme ça dans notre Bible ? Comment c'est écrit ? Heureux ceux qui découragent les frères. Heureux ceux qui procurent la paix. Alors, en vérité, c'est mon introduction. Hein. C'est mon introduction. Je n'ai pas commencé mes notes. On va y aller. Dans le psaume 64, il y a le quatrième pilier du tabouret. Parce qu'il en faut quatre. S'il n'y en avait que trois, ça n'irait pas. Il en faut quatre. Regardez, dans le psaume 64, il y a l'autre, le quatrième pilier du bonheur. Vous les aurez retenus ? Psaume 65, verset 5. Heureux. Ah, encore une fois, un texte qui nous indique comment obtenir le bonheur. Heureux, celui que tu choisis. Vous avez été choisi par Dieu ? Vous le savez que si vous êtes là, vous avez été choisi par Dieu. Vous le savez que c'est un... Moi, vous savez que des fois, on croit que c'est nous qu'on a choisi Dieu. Nous, on est tellement forts. Mais moi, je vais vous dire, quand on va se trouver devant Dieu, on va tous réaliser que c'est Jésus qui s'est mis sur notre chemin et qu'il a fait les 99 pas. Nous, on n'en a fait qu'un petit. Il nous a choisis. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons. De quoi ? Du bonheur de ta maison. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Vous aimez la maison du Seigneur ? Vous aimez vous retrouver là avec des frères, avec des sœurs ? C'est pas compliqué. Dieu a dit, il a décidé, il l'a choisi, il nous a choisi pour que nous soyons dans sa maison, que nous aimions sa maison. C'est beau l'église du Seigneur Jésus. C'est beau l'assemblée des frères et des sœurs. C'est beau d'avoir des frères, des sœurs, de toute couleur, de toute race, de toute dénomination. C'est bien. L'autre jour, il y a une dame qui m'a dit, je viens dans cette église, mais c'est une église de blanc ou c'est une église de noir? J'ai dit, c'est pas une église de blanc, c'est pas une église de noir, c'est l'église du Seigneur Jésus. Non, mais pour vous dire comment les gens sont en train de choisir la culture plutôt que de choisir la piété. J'ai dit, non, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a des chrétiens dans l'église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église, c'est l'église du Seigneur. Et quand Dieu dit que le bonheur, il est dans sa maison, c'est pas moi qu'on le relit, mais relisons-le, mes frères et sœurs. C'est des textes sur lesquels on devrait s'arrêter. Recevez mes instructions et vous trouverez le bonheur. Il y a des gens, ils n'aiment pas l'église. Et ça vient du diable. Oui, j'ai été déçu par un frère, j'ai été déçu par une sœur. Et alors ? Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. Seigneur, tu m'as placé dans cette église, et bien moi je vais être béni dans cette église. Je vais bénir les autres, je vais recevoir la bénédiction, je vais faire ce à quoi tu m'appelles à faire ceci, et bien je vais le faire. Tu m'appelles à jouer de la flûte de traversière, et bien je vais le faire. Je vais le faire pour toi, et de tout mon cœur. Tu m'appelles à accueillir, tu m'appelles à prier, tu m'appelles à une chose, à un domaine. J'ai reçu un talent, deux talents, cinq talents, j'ai plus de capacité que l'autre, et bien tant mieux, c'est une grâce, c'est pas que je suis meilleur, Seigneur, oui, je me rassasirai du bonheur de ta maison. Heureux l'homme, qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Parce que laissez-moi vous dire que si vous vous asseyez en compagnie des moqueurs, vous aurez vite une chaise. Le diable, il vous trouvera vite une chaise pour vous asseoir avec les gens qui se moquent. Un chrétien, il ne vit pas dans la moquerie. J'ai jamais vu, moi, Jésus se moquer. Vous avez vu Jésus se moquer de quelqu'un parce qu'il était bête, parce qu'il était gros, parce qu'il était maigre? Les moqueurs, ce n'est pas bon signe dans la Bible. Le Seigneur nous appelle à aimer les gens comme ils sont. Oui, il y a un bonheur. Mes frères et sœurs, il y a un vrai bonheur. Ne vous arrêtez pas, ne nous arrêtons pas sur la voie des pécheurs. Il y a des choses qui sont mauvaises, on devrait de suite dire non, stop, je ne m'arrêterai pas. Je n'écouterai pas ces choses. Moi, je veux être heureux. Je veux terminer, il y aura une joie éternelle, on le sait. La joie éternelle, parce que quelqu'un pourrait me dire, et il aurait raison, que oh, vous savez, moi, que je ne sois pas heureux sur la terre, ça ne me préoccupe pas trop, je sais que je vais être heureux pour toute l'éternité. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que ça tient debout, un peu? Vous comprenez ce que je veux dire? Si on n'est pas très heureux, il y a des gens, ils ont été persécutés toute leur vie. Quoique, il y a des textes qui disent « heureux ceux qui sont persécutés ». Parce que je crois que Dieu a le pouvoir de soutenir ces gens, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais mes frères et sœurs, même si on n'était pas toujours heureux comme on pourrait l'être, comme on devrait l'être, c'est vrai qu'il y aura une joie éternelle. Mais moi, ce qui me préoccupe, mes frères et sœurs, c'est que dans cette année qui va se dérouler, année de grâce. L'autre fois, on parlait avec quelqu'un qui était encore un petit peu enclin au signe. De quel signe vous êtes? Je suis du signe de la grâce. Mais quel signe vous êtes? Vous êtes né en quel mois? Je dis, je suis du signe de la grâce. Et il me dit, c'est quand le signe de la grâce? Le signe de la grâce, entre 1er janvier. Et le 31 décembre. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, vous êtes sous le bon signe. Parce que nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est la vérité. Et nous ne voulons pas être aveuglés. Nous ne voulons pas être fermés. Nous ne voulons pas être aveugles. Mes frères et sœurs, rappelez ce reproche que Jésus fait à l'église de Laodicée. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Que Dieu nous ouvre les yeux. Quand on lit un texte sur le bonheur, ça vaudrait quand même la peine de s'y arrêter. Oui ou non? Heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur. Jour et nuit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous avez envie de porter du fruit? Vous n'avez pas envie que Jésus vous dise quand vous passerez devant lui, tu sais, tu as porté beaucoup de fruits. Parce que ça va quand même se présenter, ça. Vous n'avez pas envie que Jésus vous dise, eh bien, tes fruits, tes regardes. Je ne sais pas comment ça va. Est-ce que Dieu peut projeter sur un écran? Est-ce que ça doit être possible à Dieu de présenter sur un écran tout ce qu'on aura fait pour lui? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que Dieu pourrait le faire?
Mais bien sûr. Heureux es-tu, mon enfant. Entre dans la joie de ton maître. Et je pense que cet état d'esprit que nous avons rappelé ce soir, cet état d'esprit qui est dans la Bible, donc si c'est dans la Bible, c'est que Dieu le veut, devrait nous encourager, mes frères et sœurs. Dire oui, moi je choisis le bonheur. Qui me fera voir le bonheur? Eh bien c'est Dieu. C'est Dieu qui me donnera du bonheur. Et je veux être une source de bénédiction. Comme Dieu avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Et il l'a été. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une source de bénédiction en 2017? Moi, je lève la main quand même. Voilà, il y en a sept. Mais c'est bien. C'est un bon début. Je répète ta question parce que je sais que je ne m'exprime pas toujours bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une source de bénédiction? Amen. Vous avez dit amen? Eh bien, vous le serez. Si vous décidez, si nous décidons d'appliquer ces choses, oui, ton commandement est pur, les commandements sont justes, tu m'instruis pour mon bien, si tu t'intéresses à mon bonheur, si tu en parles, c'est parce que tu veux me rendre heureux. Mais soyons simples, mes frères et sœurs, si Dieu nous parle du bonheur, c'est parce qu'il est capable de nous donner du bonheur. Alors on va le prier. Vous voulez bien qu'on le prie? On le prie, oui, il y a un fleuve. On ne le rechantera pas, mais c'était prévu dans ma prédication, qu'on termine en disant qu'il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Ça vient de quel psaume, ça, en fait? De quel texte ça vient? Combien? Non, ça ne vient pas d'Ézéchiel. Il y a Ézéchiel 47, mais ça vient du psaume 46, où il est dit... On ne le chante pas, on le lit. Pour rappeler peut-être aux personnes nouvelles que les cantiques sont tirés de la parole de Dieu. Oui, il y a un texte dans Ézéchiel 47 qui parle de ce fleuve, mais le cantique qu'on a chanté, que je voulais chanter pour terminer, vient du psaume 46, verset 5. Regardez ce beau cœur, ce beau verset, et on ne le chante pas, eh bien on le lit. Psaume 46, verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle. » Elle n'est pas ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Et comme le dit le verset 7, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Ça c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Mais ceux qui sont dans ce fleuve, eh bien, ils connaissent la paix de Dieu. Notre Père, nous te remercions d'avoir pris le temps de nous laisser dans ta parole toutes ces promesses, toutes ces exhortations, tous ces préceptes et enseignements qui nous permettront de savoir comment être heureux afin de procurer la paix dans ce monde de ténèbres et d'angoisse. Tu vois les gens que nous côtoierons en 2017. Tu les connais déjà tous, Seigneur. Tu pourrais tous les mettre sur une liste. Tous les gens que nous côtoierons, des gens les plus proches dans notre maison, aux gens les plus éloignés que nous ne rencontrerons qu'une fois. Tu sais, Seigneur, oui, de cette boulangère à ce banquier, à ce voisin, à cet ami, Seigneur, ou à cet ennemi. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de témoigner ce repos, de partager ce repos, d'être comme David qui, c'est vrai, a pu parler de ce bonheur parce qu'il l'avait reçu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci pour tes promesses. Merci pour le joug qui est doux et le fardeau léger. Délivre ceux qui sont dans la ruine. Délivre ceux qui sont malheureux. Délivre tous ceux qui se sont fait piéger par les ruses du diable, qui ont marché selon le conseil des méchants, qui se sont arrêtés sur la voie des pécheurs, qui se sont assis en compagnie des moqueurs. Seigneur, nous voulons véritablement marcher dans la justice parce qu'ils sont heureux, ceux qui pratiquent la justice. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.